Allez, bonsoir messieurs. Alors le sujet qu'on va aborder pour la partie paracha, c'est très certainement l'un des sujets essentiels de la paracha de la semaine, qui est bien évidemment l'épisode de la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak que l'on traduit mal par le sacrifice d'Yitzhak, mais qu'on traduit mieux par la ligature d'Yitzhak, le mot larakod. L'arakod, en réalité, c'est attaché. Donc, on dit Akedat Yitzhak, c'est la ligature d'Yitzhak, puisqu'il n'a pas été sacrifié. Alors, c'est très intéressant, parce que si vous vous souvenez, le cours de la semaine dernière, on avait dit Lech Lecha, Lech Lecha. Les 10 épreuves d'Abraham, comment on fait pour les compter, à partir de quand on les compte, etc. Il y a différentes opinions, mais l'opinion la plus classique, c'est de dire Lech Lecha, Lech Lecha. On a commencé avec Lech Lecha, et on termine avec Lech Lecha. Le premier Lech Lecha, c'est quand Abraham doit quitter son environnement. Le dixième épreuve, le deuxième Lech Lecha, c'est lorsque Abraham a l'obligation de prendre son fils pour le sacrifier. Mais sur cette dixième épreuve, il est écrit En na ela lashon bakasha. Dans la paracha, il est écrit Kach na edvincha. Prends, je t'en prie, ton fils. Le mot na, nous disent nos commentateurs dans la Gemara de Sanhédrin, En na et là lashon bakasha. À chaque fois que le mot na est utilisé, nun aleph en hébreu, c'est toujours un langage d'une supplique. Comme si Dieu suppliait Abraham de bien vouloir prendre son fils pour le sacrifier. Karna, s'il te plaît, prends-le pour le sacrifier. Et bien évidemment, la Gemara pose la question, on dit, pourquoi on a besoin de dire s'il te plaît, si c'est une épreuve? Quand on envoie une épreuve, personne ne me dit s'il te plaît, tu vas surmonter une épreuve. D'accord, une épreuve d'Afka, c'est que je dois la surmonter avec un peu de difficulté, etc. Pourquoi ici, et c'est d'ailleurs la seule fois dans les 10 épreuves d'Abraham, pourquoi ici, Akadosh Baruch Hou dit s'il te plaît, prends ton fils pour le sacrifier? Réponse de la Gemara, Machal les Meler Basarbadam. On donne une parabole par rapport à un roi. La parabole est la suivante. Chez Amdou Alav Milchamot Harbe, ce roi a dû surmonter de nombreux combats. Il a dû organiser de nombreuses guerres. Ve'elo Gibor Echal Benitzachon. Et il avait, parmi ses soldats, il en avait un qui était peut-être le chef d'état-major, le dirigeant, le général de l'armée. Il était exceptionnel. Il était bon. Il était bon. Et tous les combats que le roi a dû mener, en réalité, c'est son général qui était à la tête de tout, et c'est grâce à lui que tous les combats étaient gagnés. Les Yamim Amda Alav Milchama Chazaka. Et un jour, il y a eu le combat, la dernière guerre, d'accord? La guerre la plus difficile à surmonter. Et là, le roi convoque son général et il lui dit Bevakasha Mimcha, Amod Liba Milchamazo, Che Lo Yomru Rishonot En Baem Mamash. Il convoque son général en lui disant, je t'en prie, je t'en supplie, ne te rate pas dans celle-là. C'est la dernière, ne la loupe pas. S'il te plaît, ne la loupe pas. Pourquoi? Parce que si tu rates celle-là, que vont dire les gens? Ils vont dire, ah, ça veut dire que toutes celles qu'il a réussi à gagner jusqu'à présent, c'est parce qu'elles étaient faciles. Et que celle-là qui était difficile, il n'a pas réussi à la surmonter. Eh bien, nos maîtres nous disent dans la Gemara, par rapport à Abraham, c'est exactement la même idée. Dieu se tourne vers lui. Il lui dit, écoute, c'est la dernière. C'est la dernière épreuve, c'est la plus dure. Tu dois prendre ton fils, tu dois le sacrifier. Je sais que c'est compliqué, mais je t'en prie. Il faut que tu la surmontes. Il faut que tu la surmontes. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne la surmontes pas celle-là, que vont dire les gens? Pas le peuple d'Israël, mais que vont dire les nations du monde? Les nations du monde vont commencer à dire, ah ben voilà, votre Abraham là, vous n'arrêtez pas de vous glorifier sur le comportement d'Abraham qui a surmonté des épreuves, etc. Mais en réalité, s'il a réussi les premières, c'est parce qu'elles étaient faciles. Et puis dès qu'il y en a une qui était un peu difficile, il n'a pas réussi à la surmonter. Donc Akadosh Baruch Hu se tourne vers Abraham en lui disant, s'il te plaît, celle-là, tu ne dois pas la louper. Tu dois aller jusqu'au bout pour justement faire taire tous ceux qui pourraient critiquer Abraham en disant qu'Abraham, en fait, il n'a réalisé que des épreuves faciles à surmonter et que la dernière, il n'a pas réussi à la surmonter.
C'est l'inverse. Il a raté toutes les épreuves sauf celle-là. Qu'est-ce que ça aurait fait dans ce cas-là?
Non, parce que ça, ce n'était pas possible. Parce que si Abraham avait raté une épreuve, il n'y en aurait pas eu d'autres. Puisque toutes les épreuves d'Abraham, elles sont graduellement de plus en plus difficiles. volontairement. Donc, si Abraham s'était planté dans la première, la deuxième, la troisième, l'histoire était terminée. Mais on savait qu'il devait en surmonter 10. 10, c'est symbolique, c'est le chiffre 10, c'est le nom d'Hachem, etc. Il devait en surmonter 10. Donc, et pour que la réputation d'Abraham soit bonne, puisque je vous rappelle que dans la paracha de la semaine dernière, on a dit que Hachem allait construire la réputation d'Abraham. C'est quoi la réputation d'Abraham? C'est que 3000 ans après, on en parle encore. Sur Terre, aujourd'hui, d'accord, dans les trois religions monothéistes, on parle d'Abraham. Cette réputation, elle vient d'où? Du fait qu'il ait surmonté les épreuves, d'accord? Toute cette histoire qu'on nous raconte dans la Torah, c'est quand même un truc incroyable que 3000 ans après, on parle encore d'Abraham. Eh bien, on nous dit, il ne faut pas rater la dixième. Si tu rates la dixième, alors du coup, ça va retirer toute ta réputation. Donc, prends, je t'en prie, ton fils, pour aller jusqu'au bout, pour montrer à quel point tu étais capable de te sacrifier pour Dieu, de sacrifier tout ton système de croyance jusqu'à présent que tu as mis en place, etc. Va jusqu'au bout.
On dit pas, il y a pas des commentaires qui disent que la mort de Sarah, c'est aussi une épreuve en soi, et du coup, soit on fait 10, on s'arrête à Sarah.
Alors en réalité, c'est 10 quoi qu'il arrive. De la même façon qu'il y a une discussion pour savoir comment on compte la première. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait dit, c'est quoi la première? Est-ce que c'est le Lech Lecha? Ou est-ce qu'il y a déjà la fournaise ardente? La fournaise ardente, elle est avant Lech Lecha. D'accord? Alors, on la compte, c'est là ou on ne la compte pas? Donc, en fait, 10, c'est sûr. Tout le monde dit qu'il y en a 10. La façon dont on compte les 10, c'est ça la discussion. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Certains nous disent que le Lech Lecha, c'est pas celle-là la dixième. Le sacrifice d'Yitzhak. Certains nous disent, non, le sacrifice d'Yitzhak. Certains nous disent, c'est pas celle-là la dixième. Certains nous disent que c'est la mort de Sarah qui est juste après le sacrifice d'Yitzhak, que c'est la mort de Sarah, c'est ça son épreuve. Ça veut dire quoi?
Peut-être qu'elle est liée. Parce que Abraham va prendre son fils pour échouer.
Donc, certains vont nous dire, mais non, c'est une seule épreuve. D'autres vont dire, non. Dans notre façon de compter, la neuvième, c'est le sacrifice, et la dixième, c'est la mort de Sarah. D'autres vont nous dire, non. La huitième, c'est le sacrifice. La neuvième, c'est la mort de Sarah. La dixième, c'est l'acquisition de la Maharat à Marpella. Donc, en fait, il y a plein de façons de compter différemment. De quoi? Ah, si. Il y a de quoi largement faire des cours sur ça. Et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais il y a de quoi expliquer en quoi c'est une épreuve. Il y a de quoi expliquer. Il y a de quoi expliquer.
Si la Akeda arrive en neuvième position, le Bakasha a dit...
Ok, donc c'est pour ça que... Le commentaire qu'on a mis en place là depuis l'introduction, c'est par rapport à l'opinion du Midrash qui dit Lech Lecha. Que la première, c'est le Lech Lecha, la dixième, c'est le Lech Lecha, et que la mort de Sarah, c'est pas une épreuve indépendante, et que l'acquisition de l'Amrat à Marpella, c'est pas une épreuve indépendante. D'accord? Donc, il y a différentes façons d'aborder les choses, c'est ça la grandeur de la Torah de manière générale. D'accord? Mais je vous rappelle que on ne sait pas quelles sont les épreuves d'Abraham. Parce que dans la Mishnah des Pirkei Avot, où on nous dit qu'Abraham a dû surmonter 10 épreuves, c'est ça la source officielle qui nous dit qu'Abraham a eu 10 épreuves à surmonter, la Mishnah ne continue pas en nous donnant la liste des 10 épreuves. Donc du coup, c'est les Chachamim qui essaient de trouver, de décortiquer le texte. Ça, c'est une épreuve, ça, c'est pas une épreuve. Chacun va donner une grille de lecture différente pour savoir comment on arrive à 10. Le Midrash, Lech Lecha. Le premier, c'est le fait de quitter Israël, Our Kasdim. La dernière, c'est le sacrifice d'Yitzhak. D'accord? On reste sur cette lecture, nous, pour ce soir. Cette histoire de la Akedat Yitzhak, il faut bien comprendre à quel point elle est importante dans la tradition juive. Ce n'est pas juste un épisode dans la Torah parmi tant d'épisodes. D'où est-ce qu'on le sait? Parce que nos maîtres nous font remarquer que lorsque Abraham arrive en haut de la montagne, rappelez-vous de l'histoire, ils arrivent en bas de la montagne d'abord. Il n'est pas seul, il est accompagné de son fils Ishmaël, de son serviteur Eliezer, d'un âne qui était avec eux, le Chamor. Je vous rappelle que dans la Torah, Chamor est écrit sans vav. C'est très important comme remarque. Chamor est écrit sans vav. Chet, mem, resh. Pourquoi? Parce que nos Chachamim vont nous dire qu'on peut le lire différemment. Il ne faut pas dire Chamor, ni Chamar, il faut lire Chomer. Chomer, c'est la matérialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ishmaël et Eliezer sont restés au niveau de la matérialité. Et il a posé la question d'ailleurs, il leur a posé la question. Il leur a dit, vous voyez quelque chose là-haut ou vous voyez rien? Il a posé la question aux trois. Ishmaël et Eliezer ont dit, non, il n'y a rien, il y a une montagne quoi. Yitzhak a dit, si, je sens une manifestation divine, etc. Donc Abraham a dit, ok, vous deux, vous restez avec le Hamor, vous restez avec la matérialité, moi, je monte avec Yitzhak. Donc, ils arrivent là-haut, ils attachent, ils le machin, enfin toute l'histoire qu'on connaît, et il y a un moment, il faut prendre le couteau. Il faut prendre le couteau dans la main pour tuer, sacrifier Yitzhak. Et nos maîtres nous disent, nous font remarquer que dans la Torah, le mot couteau n'est pas le mot habituel que l'on utilise en hébreu. Puisque en hébreu, normalement, pour dire couteau, on dit sakin. Or, dans la Torah, quand on dit qu'Abraham a pris le couteau dans sa main, on ne dit pas qu'il a pris le sakin. Le mot qui est utilisé est un mot très surprenant. Exactement. On dit ma'achelet. Ma'achelet, c'est pas un couteau. Ma'achelet, ça vient du mot ochel, manger. Et donc, on est obligé de tordre un petit peu le sens, avoir un peu d'imagination, en disant, un couteau s'appelle couteau parce qu'il nous permet de manger. Il nous alimente. Ma'achelet, ma'achil. Les ha'achil en hébreu, c'est celui qui donne à manger. Donc en fait, le couteau dans la Torah, dans l'histoire de l'Akedat Yitzhak, s'appelle ma'achelet et non pas sakin. Tous nos commentateurs posent la question. Pourquoi on n'a pas utilisé le mot sakin ? D'accord, le mot sakin, il est très bien. D'accord, utilise-moi le mot qui veut dire couteau. Tu vas trouver un truc, alors c'est très joli hein, de dire qu'un couteau, ça t'alimente, ça, c'est ça qui te donne à manger, alors du coup, on l'appelle ma'achelet. C'est très joli, c'est poétique. Mais ça va, c'est pas de la poésie, la Torah. D'accord, dis-moi sakin et c'est très clair avec sakin. Réponse. De la même façon qu'un couteau te permet de manger, sache que tout l'épisode de la Akedat Yitzhak nous alimente tout au long de l'histoire juive jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Cette histoire de la Akeda nous fait manger. Et faire manger, c'est quoi ? C'est faire, permettre de vivre. Donc l'histoire de la Akeda Titzrak permet au peuple d'Israël de vivre. Pendant tout le long de l'histoire, à comprendre que on va considérer cet épisode comme étant fondateur de l'histoire juive. Et quand je dis fondateur, c'est qu'on va l'utiliser à plein de moments dans notre calendrier, où à chaque fois on va évoquer l'histoire du sacrifice d'Yitzhak, et on va se présenter, nous, comme étant la continuité, les héritiers d'Abraham et d'Yitzhak. Première occurrence, alors je suis sûr que vous pouvez en avoir plein en tête, hein, d'accord, des moments où on parle du sacrifice d'Yitzhak, mais je vous donne au moins les grosses occurrences. La première, c'est dans la tefila du matin. Tous les matins, je vous rappelle. Nous, à la synagogue, on est un peu fainéants, dans pratiquement toutes les synagogues. On commence la tefila à Hodou, d'accord, mais il y a 30 pages avant. D'accord, les 30 pages d'avant que certains font quand ils sont encore au lit. Hein,
ça passe à la trappe.
Ah ouais, ça passe plus qu'à la trappe, c'est qu'il n'y a personne. Ah bah ouais.
Même dans une synagogue aussi religieuse.
Exactement, avec un super rabbin et tout, rien. Il y a l'histoire de la Akedat Yitzhak qu'on lit, qu'on est censé lire tous les matins. Tous les matins, on lit l'histoire de la Akedat Yitzhak. Et quand on termine la lecture du passage de la Akedat, on rajoute un texte qui, lui, ne vient pas de la Torah, qui est écrit par nos Chachamim et qui est magnifique. Le texte nous dit « Ribono shel olam ». Écoutez ce texte, il est superbe. « Maître du monde ». Kemo shekavash Avraham avinu rachamav la'asot ratzonecha b'levav shalem, ken yerbeshu rachamecha et ka'asecha ve'igolu rachamecha mitotecha. On dit la chose suivante, maître du monde. De la même façon qu'Avraham a été en mesure de maîtriser ses sentiments, de maîtriser tout ce qu'il pensait, et qu'il aurait pu à ce moment-là demander, d'accord, de ne pas sacrifier son fils, de faire quelque chose de particulier, etc. Et qu'il ne l'a pas fait. Et donc, il a été à l'encontre de sa nature, puisque Abraham, c'est le chesed. Et tu demandes de sacrifier le fils d'un homme qui vit dans le chesed, chose qui est impossible. Et malgré tout, il l'a fait. Donc, il a été à l'encontre de sa nature. Eh bien, s'il te plaît, toi, Hachem, nous te demandons d'aller aussi à l'encontre de ta nature à toi. C'est quoi la nature d'Hachem ? C'est d'être dans le tzedek, la justice, la rigueur. C'est ça la nature d'Akadosh Baruch Hu. C'est El Bereshit Bara Elohim. D'accord ? C'est le nom d'Hachem dans la rigueur. Donc on dit, de la même façon qu'Abraham a été à l'encontre de sa nature, s'il te plaît, toi, va à l'encontre de ta nature pour juger tes enfants. Donc on s'appuie tous les matins sur l'histoire de la Akedat Yitzhak pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous juger favorablement à l'encontre des règles de la justice. Et d'être plus sympa, et que même si on mérite d'être anéanti, qu'il soit plus cool avec nous. Ça, c'est la première occurrence. Tous les matins, on part de l'Akedat Yitzhak. Deuxième occurrence, bien évidemment, Rosh Hashanah, quand on sonne du chauffard, je vous rappelle, pourquoi est-ce qu'on sonne du chauffard? C'est tout simplement en souvenir de l'Akedat Yitzhak. D'accord, que quand Abraham, finalement, n'a pas pris son fils pour le sacrifier, d'accord, qu'il a pris à la place un bélier, un bouc, d'accord, et bien, quand on prend le chauffard, d'accord, on est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, hein, c'est vrai qu'on n'est pas à la hauteur, c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, on doit être jugé. Normalement, on sait sûr qu'on ne passe pas. Mais écoute, on est les descendants d'Abraham quand même. Hein. On est les descendants d'Yitzhak, tu te rappelles? Il était prêt à sacrifier son fils. Eh bien, nous, c'est nous les enfants d'Abraham. Donc s'il te plaît, de la même façon qu'Abraham est là, alors s'il te plaît, prends-nous nous aussi en grâce et en miséricorde, bien que ça soit Rosh Hashanah et que c'est le Yom HaDin. Ne te comporte pas avec le din. On va sonner du chauffard pour que tu te lèves de ton siège de din, pour que tu t'asseyes sur le siège du rachamim. Donc c'est une deuxième occurrence. Troisième occurrence que je trouve magnifique. Dans la Psikta Rabbati. Voilà l'enseignement de la Psikta Rabbati. On le dit comme ça. Quand Dieu a demandé à Avraham de sacrifier son fils, Avraham se tourne vers Kadosh Baruch Hu, à la fin de l'histoire, et il lui dit, Ribono shel olam, maître du monde. Galou yaya lefanecha, shayali ma leyashivecha kesheamartali leyakriv et Yitzhak. On est bien d'accord, dit Abraham à Hachem. Il dit, dis-moi, on est bien d'accord que si je voulais, j'aurais pu utiliser tous les arguments du monde pour te les rétorquer pour ne pas sacrifier mon fils. Tous les arguments du monde. Et en plus, dit Abraham, je suis un expert sur le sujet, pourquoi? Parce que moi qui ai découvert ton existence sur Terre, le monothéisme, et qui n'arrête pas de parler aux gens, de les convaincre de l'existence de Dieu, et qui n'arrête pas de dire aux gens d'arrêter de sacrifier leurs enfants pour leurs idoles, parce que je vous rappelle que c'était le système classique de l'époque, on sacrifie les enfants aux idoles, en général le premier-né, etc. C'est un truc courant. Abraham, il a un argumentaire de dingue, ça fait des années qu'il travaille là-dessus. Il a dit à tout le monde, il a convaincu des gens, arrêtez de sacrifier vos fils, ça n'a pas de sens, Dieu ne peut pas demander une chose pareille. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'alliance de sang, de vie, quand on est avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est un truc idolâtre, mais ça ne peut pas tenir. Abraham, il dit, hé Hachem, on est bien d'accord que sur l'argumentaire de vente de ne pas sacrifier son fils, j'ai largement de quoi rétorquer. Et en plus, toi-même, tu m'as dit que j'aurais une descendance et que ma descendance, ça ne sera pas Eliezer, mais que ça sera Yitzhak et que tout le monde va arriver à la suite d'Yitzhak. Donc, si tu me demandes maintenant de sacrifier mon fils, j'aurais très bien pu te rétorquer, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'as promis d'avoir une descendance avec Yitzhak, donc c'est sûr que Yitzhak ne va pas mourir. D'accord? Donc, Abraham dit, on est bien d'accord que j'aurais pu trouver tous les arguments du monde. Et pourtant, je n'ai pas ouvert la bouche. J'ai rien dit, j'ai pas utilisé un seul argument, j'ai rien dit, tu m'as demandé de le faire, j'ai été jusqu'au bout. Alors maintenant, je te demande quelque chose. De la même façon que moi, je n'ai utilisé aucun argument, j'ai pas ouvert la bouche pour te rétorquer quoi que ce soit. Alors s'il te plaît, quand tes enfants, descendants d'Yitzhak, commettront des fautes, qu'ils perdront leur identité, qu'ils se détourneront du droit chemin de toute leur Torah, etc., etc., s'il te plaît, toi aussi, je te demande de fermer ta bouche et de ne pas ouvrir et de donner des arguments pour accuser le peuple d'Israël. Ça, c'est quand même audacieux comme texte, mais c'est génial, c'est la force des Chachamim. C'est la grande différence qu'il y a entre le judaïsme et l'islam. D'accord, c'est que dans l'islam, tout ce que Dieu dit, c'est bon. Dans le judaïsme, dès que Dieu dit un truc, on va à l'encontre, on négocie, 50, 45, 40, d'accord, non, tu veux anéantir le peuple d'Israël, c'est hors de question, si c'est comme ça, je préfère mourir moi plutôt que de mourir... C'est la force du judaïsme. Et là, c'est exactement pareil. T'as un Abraham ici qui est en train de négocier avec Kadosh Baruch Hu, il dit, hé, moi, t'as vu, hein, j'ai rien dit. Alors toi aussi, tu diras rien quand tes enfants feront des fautes et que tu auras largement de quoi les accuser. Tout ça, c'est encore une fois, on se construit sur le sacrifice d'Yitzhak, l'épisode du sacrifice d'Yitzhak. Il y a une réunion sur la pergola, normalement, avec Robert et l'architecte. Ok, je continue. Encore quelques petites preuves. Un truc génial. Dans la Gemara de Ta'anit, on nous dit que si malheureusement un jour, il manque de pluie en Israël. Alors on sait, dans la Gemara, on nous explique. Si pendant un certain temps, ça dépend des dates, etc., il n'y a pas, toujours pas de pluie et qu'on a fait des prières et qu'on a fait des prières et qu'il n'y a toujours pas de pluie qui tombe et qu'on n'a pas d'autre solution, d'accord, pour nous c'est la mort, etc. Hein, Razak. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors on jeûne. Ok. Si malgré les jours de jeûne, ça ne vient toujours pas, il n'y a toujours pas de pluie, c'est la panique. On fait quoi? On dit l'étape la plus urgente, ultime, etc., c'est, en plus du jeûne, bien évidemment, en plus du jeûne, de sortir le Echal dans la rue, de sortir la Teba dans la rue, d'organiser une prière dans la rue. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est dans la rue, même les gens qui n'ont pas l'habitude de venir à la synagogue, on peut les sensibiliser. On peut leur dire, hey, venez, pas de pluie, truc, on va tous mourir, machin. Allez, on attrape tout le monde, viens avec nous, on associe tout le monde, on est dans la rue. Et on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est perdu, quoi. On n'a même pas nos synagogues, on est à la rue. Pourquoi? Et là, attends, je n'ai pas fini. Et là, la Mishnah nous dit, en plus de cela, on doit prendre de la cendre que l'on doit mettre sur la tête du Nassi, la tête du président, la tête du Rav, la tête des fidèles. Tout le monde devait mettre de la cendre sur la tête. Les commentateurs posent la question, pourquoi de la cendre? Première réponse, la cendre en signe de deuil. D'accord, je suis mort, quoi, je suis plus rien. D'accord, je mets de la cendre sur ma tête. Deuxième raison, en mettant de la cendre, tu viens évoquer le sacrifice d'Itsrak qui aurait dû être brûlé sur son autel de sacrifice. Ah, mais il n'a pas été brûlé, il n'y a pas de cendre. Avraham était tellement convaincu de son geste et qu'il voulait vraiment le faire qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si Itsrak était brûlé. Donc la cendre, nous disent nos maîtres, c'est comme la cendre du sacrifice d'Itsrak pour rappeler à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, envoie-nous de la pluie. On est les descendants d'Itsrak tout de même. Et Itsrak, c'est celui d'Akedat Itsrak, donc c'est pas rien. Donc envoie-nous de la pluie. Donc encore une fois, une preuve que l'histoire de la Akedat Itsrak, c'est un truc central dans notre histoire. Rosh Hashanah, on en parle. Tous les matins, on en parle. Tachlir, quand on se retrouve devant un cours d'eau, la raison du pshat, d'accord, de l'histoire, pourquoi on se met devant un cours d'eau, enfin pas du pshat, plutôt du drash, d'accord, c'est de dire quoi? C'est de rappeler que quand Avraham a été pour prendre son fils pour le sacrifier, il y a eu un cours d'eau qui s'est mis devant lui comme un yetzerara, d'accord, pour l'empêcher d'avoir encore un truc à surmonter pour y aller. On dit, il aurait pu trouver une bonne raison, dire ah c'est bon, j'y vais pas, je peux pas passer, c'est dommage. D'accord? Il y a eu un cours d'eau. Eh bien, pareil, à Rosh Hashanah, on se met devant un cours d'eau pour dire à Kadosh Baruch Hou, écoute, on est les descendants d'Avraham et d'Itsrak quand même, hein. D'accord, ils ont été capables de surmonter leur Yetzerara et tout. Nous aussi, on voudrait bien faire la même chose. Donc, on se met devant un cours d'eau comme Avraham et Itsrak lorsqu'ils ont été pour se faire sacrifier. Donc, encore une fois, Rosh Hashanah, les jours de jeûne, tous les matins de l'année, d'accord, on parle de cette histoire de l'Akeda d'Itsrak. Tout est sur la Akeda. Maintenant, une fois qu'on a rappelé donc l'importance de l'événement, il y a un point maintenant qui est central. Comment est-ce que Avraham appelle l'épisode de la Akedat Itsrak? On a le verset de la paracha. Si. Quand Avraham est sur le point de monter sur la montagne, qu'est-ce qu'il dit à Eliezer et à Ishmaël? Il dit quelque chose et en réalité c'est ça qu'il considère comme étant le sacrifice d'Israël. Ouais, vas-y, continue. Ouais, ensuite. Allez, juste après. Atko, et ensuite. Oui. Non. Enfin, l'idée, oui, mais dans les mots. Dans les mots. Avraham dit, vous, toi, Eliezer, toi, Ishmaël, on a compris le chamor, on a dit tout à l'heure, la matérialité, vous restez ici. Et moi et le jeune homme, c'est Itsrak, hein, il a 37 ans. Moi et le jeune homme, Nishtachave Venashuva Alechem. Nous allons monter, nous prosterner et nous redescendrons. Nos maîtres nous disent qu'il a prophétisé sans savoir qu'il prophétisait. revenir. Si, non, il savait qu'il allait sacrifier son fils. Ah bah oui, bien sûr, bah oui. Non, il le savait depuis le début. Il est parti pour ça depuis qu'ils ont quitté la maison.
Je suis désolé, le texte dit même pas, Dieu lui demande même pas de sacrifier.
Hazak, on est d'accord. Ola, d'accord. De faire un Ola. Ola, c'est une élévation.
Il a dit de faire monter.
Très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais là, ici, la grandeur d'Abraham, c'est qu'il vient définir ce qu'est cet événement. Qu'est-ce que cet événement ? C'est une ishtachavaya. C'est une prosternation. Abraham lui-même l'appelle comme ça. Nous allons monter, nous allons nous prosterner et nous allons descendre. Au pluriel, venashuva alechem. Nous redescendrons. Mais comment ça, redescendre ? Mais t'es censé le sacrifier, donc il n'est pas censé redescendre avec lui. En fait, il a prophétisé sans savoir qu'il prophétisait. Mais les termes sont extrêmement importants. Il a dit, nous allons nous prosterner. Et là, nos commentateurs posent l'action, ils disent, c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi cette histoire de prosternation ? Et pour nous aider à comprendre ça, je passe par un petit enseignement parallèle qui vient de le Midrash Bereshit Rabba. Écoutez-le bien. On nous dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak, un enseignement de Rabbi Yitzhak. C'est marrant. Les noms sont toujours un petit clin d'œil. Des fois, ce n'est pas vraiment les vrais noms. Bien sûr. D'accord, mais des fois, il y a un petit clin d'œil. C'est l'enseignement qu'on rapporte ici, c'est un enseignement au nom de Yitzhak. Et on parle du sacrifice d'Yitzhak. C'est un petit clin d'œil. En tout cas, voilà ce qu'on nous dit. Hakol bisrut ishtachavaya. Écoute ça. L'enseignement nous dit, toute l'histoire juive tient grâce à une prosternation. Ishtachavaya. Avraham lo chazar me aramoria beshalom. Et là, bisrut ishtachavaya. Si Abraham est redescendu en paix avec son fils du mont Moria, c'est par le mérite de la prosternation qu'ils ont fait là-haut. Comme il est écrit, Venishtachave, Venashuva Alechem, nous allons nous prosterner et nous redescendrons. Israël, Onigalou, Mimitsraïm, et là, Bisrut Ishtachavaya. Si le peuple d'Israël a été sauvé d'Égypte, c'est par le mérite d'une prosternation. Laquelle, on a le verset chez Néhémar, Vaya Amen Aham, Vaïkedu, Vaïchtachavu. Quand Moshe s'est présenté devant le peuple d'Israël et qu'il a parlé du projet de la libération, le peuple a cru Moshe et ils se sont prosternés. C'est parce qu'ils se sont prosternés qu'on a pu sortir d'Égypte. Je continue, après on explique. Ha Torah l'onitena et la bisrut ishtachavaya. La Torah n'a été donnée au peuple d'Israël que par le mérite d'une prosternation. Comment est-ce qu'on le sait ? Chez Nehemar, Veishtachavitem merachok. Dans la Torah, il est écrit. Attention, vous n'avez pas le droit de monter sur la montagne, vous devrez vous prosterner de loin. Et c'est toujours le même mot qui est utilisé. Ishtachavaya, une prosternation. Hana, l'onifkeda et la bisrut ishtachavaya. Hana, la mère du prophète Samuel, n'a pu tomber enceinte, alors qu'elle était stérile, que par le mérite d'une prosternation. Comme il est écrit, Vaishtachavu sham lachem. Ils se sont prosternés là-bas, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Hagaluyot enamitna kesot et la bisrut ishtachavaya. Les exils du peuple d'Israël, le dernier exil du peuple d'Israël, celui qui amènera à l'arrivée du Mashiach, on va sortir de notre exil par le mérite d'une prosternation. Comme il est écrit dans le prophète Ishaïa, Veishtachavu lachem be'ara kodesh birushalayim. Un jour viendra où le peuple d'Israël ira se prosterner sur le mont du Temple, au nom d'Akadosh Baruch Hu, à Jérusalem. Ametim, enan chaim et la bisrut ishtachavaya. Les morts ne ressusciteront que par le mérite d'une prosternation, comme il est écrit dans les Tehilim, bohu nishtachave venichraa nivrecha lifnei Hashem osenu. On dit que ça c'est par rapport à la résurrection des morts, où on dit qu'effectivement tous les morts viendront se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. On a brassé ici. Bien évidemment, bien évidemment. Et quand la prosternation n'est pas à sa place, il y a un problème. Et quand Mordechai n'a pas voulu se prosterner devant Haman, etc., vous pouvez tous encore avoir plein d'exemples. Mais là, le Midrash a brossé toute l'histoire juive, depuis Abraham, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, la résurrection des morts. Et il a dit que tous les épisodes importants de l'histoire juive ont eu lieu grâce à une prosternation.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un
tikkun ? Oui. Ouais, et tu vas voir jusqu'où on va monter. Tu vas voir. Je continue encore. Dans le Moussaf des jours de fête. Vous savez, il y a un très joli passage dans le Moussaf où on se lamente de ne pas avoir le temple de Jérusalem. Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas quand on dit qu'on n'a pas le temple? On dit, oh là là, on est malheureux de ne pas avoir un endroit pour se prosterner. Ah, ça va, c'est pas ça l'essentiel quand même. C'est de faire les corbanotes, etc. On s'en fout d'un endroit pour se prosterner, pour se prosterner n'importe où. D'accord, on s'en fout. On dit, non, non, non. L'essentiel qui nous manque, c'est le fait de pouvoir se prosterner. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire de prosternation? D'accord, pourquoi on insiste tant? Par exemple, rappelez-vous, dans les Pirkei Avot, quand on nous dit qu'il y avait des miracles qui se produisaient au temple de Jérusalem, parmi les miracles, on disait quoi? Pendant les trois fêtes de pèlerinage, il y avait un monde de dingue au temple de Jérusalem. Un monde de dingue. Tout le monde allait à Jérusalem. D'accord? Le monde entier, tout Israël. Et on nous dit quoi? Il y avait tellement de monde que, en fait, on était serrés les uns contre les autres. En fait, on touchait même pas le sol, quoi. On était portés par les épaules du voisin qui était tellement grand, plus grand que moi, d'accord, que je touchais même plus le sol. Et là-bas, la Mishnah nous dit, ah, mais vous inquiétez pas. Moi, Hachem, je vous promets un truc. Même si, en étant debout, vous êtes tous hors sol parce que vous n'arrivez même pas à toucher le sol tellement il y a de monde, je vous promets que vous arriverez à vous prosterner. Là encore, on se dit, ah ça va, on s'en fout, on est au Beth Amikdash, d'accord, bon, on ne peut pas se prosterner, on ne prosterne pas. Comme si à chaque fois, l'essentiel de tout notre service, c'est la Ishtar Havaya, le fait de se prosterner. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée de prosternation? La réponse, la suivante. Rashi nous dit, je rajoute encore un exemple, Merhila, dans la Hamida, on doit se prosterner. Alinu Shaber, oui, mais dans la Hamida, on doit se prosterner. On se prosterne. La première bracha, début et fin, et à la bracha de Modim, début et fin. D'accord? Et la Mishnah nous dit que plus tu occupes un rang social important, et plus tu dois te prosterner à de nombreuses reprises. Par exemple, le Kohen Gadol, il doit se prosterner à chaque bénédiction. Le roi d'Israël, il doit se prosterner du début de la Hamida jusqu'à la fin sans se relever. Plus ton rang social est élevé, j'ai pas dit religieux, j'ai dit social, plus ton rang social est élevé, et plus tu dois te prosterner à de nombreuses reprises. Le roi, il n'y a pas plus haut que le roi d'Israël. C'est lui qui mène les guerres, c'est lui qui met les impôts, c'est lui qui organise la société, etc. Donc c'est le top niveau de la société. D'accord? Lui, quand il fait sa Hamida, il doit se prosterner tout le temps de la Hamida. Et nos maîtres nous disent, Rashi nous dit, pourquoi on se prosterne? C'est quoi la Ishtar Havaya? Comment on définit une Ishtar Havaya? Et regardez, la réponse, elle est magnifique. Si je la retrouve. Hop, attends que je retrouve dans les mots. Je ne sais plus où je voulais pas dans les mots, c'est pas grave. La Ishtar Havaya, c'est quoi? C'est être en mesure de faire apparaître les vertèbres de la colonne vertébrale. C'est ça la Ishtar Havaya. Et alors, qu'est-ce que ça représente, ce geste-là? C'est de casser sa stature. L'homme est un homme parce qu'il a une colonne vertébrale. On a une stature. On n'est pas des animaux. On n'est pas ni affalé sur la terre, ni courbé. On peut se tenir droit. Cette façon d'être nous permet d'être face à face à Akadosh Baruch Hu. Je peux parler à Kadosh Baruch Hu sans avoir besoin de lever la tête. PLP à Daberbo, comme Moshe Rabbeinu. On parle comme des copains, d'accord? On est au même niveau. Je suis debout moi aussi, hein, je ne suis pas n'importe quoi. Toute la grandeur de l'histoire de l'humanité, c'est que l'homme a une colonne vertébrale qui lui permet de se déplacer, qui lui permet de construire la société, qui lui permet d'être le roi du monde. C'est ça qui fait ce qu'on est. Mais, devant Kadosh Baruch Hu, il faut être capable de briser cette colonne vertébrale. De comprendre que devant Akadosh Baruch Hu, en réalité, tu n'as pas de quoi tenir. Tu n'as pas de stature devant Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu fais ta Hamida, tu dois montrer à plusieurs reprises que toute ta stature, tu la mets finalement en signe de soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tu te prosternes devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça une Ishtar Havaya. Et plus tu es important dans l'échelle sociale, et plus tu dois briser ta colonne vertébrale. Le Kohen Gadol, à chaque bénédiction, le roi, du début à la fin, il est complètement dans une Ishtar Havaya. Totalement. Pourquoi ? Parce que le reste du temps, quand tu n'as pas fini, tu fais pas ta Amida. Bien évidemment, tu es un roi, tu ne peux pas te permettre d'avoir comme ça une posture, ouais, je fais attention, etc. Non, tu es un roi, d'accord ? Il faut que tu sois droit. Mais dans ta Amida, tu es devant Akadosh Baruch Hu. Devant Akadosh Baruch Hu, c'est là que tu dois te soumettre. Quand tu as fini, tu retrouves ta stature habituelle. Mais quand tu es devant Akadosh Baruch Hu, tu dois briser, tu dois faire apparaître justement toutes les vertèbres pour montrer que tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il a fait Abraham en réalité. On dit, je monte me prosterner. Mais comment ça, tu montes te prosterner? Tu ne vas pas te prosterner, tu vas sacrifier ton fils. Mais en réalité, le sacrifice d'Yitzhak, c'est un geste. Mais l'esprit, c'est quoi? C'est que je soumets tout mon système, tout ce que je crois, toutes mes croyances jusqu'à présent, du lien avec Dieu, etc. Je remets tout en cause. Et je n'ai pas de problème de le faire. J'ai une Ishtar Havaya, c'est ça la grandeur du peuple d'Israël. À chaque fois qu'il y a un moment critique dans notre histoire, on est sauvé parce qu'on est en mesure d'être Mishtar Havim. Abraham, l'histoire d'Égypte, Hana, la fin de l'exil, la résurrection des morts. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu nous dit « Moi, je peux intervenir, mais il faut que vous me donniez la place pour intervenir. » Si vous gardez votre stature, moi, je ne peux pas intervenir. Si vous pensez que vous pouvez vous débrouiller seul et que vous êtes droit, alors moi, je ne peux pas intervenir. Mais si, au contraire, vous montrez, pas tout le temps, mais à certains moments, qu'il y a une Ishtar Havaya, alors moi, effectivement, je peux intervenir pour vous sauver. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on comprend un midrash très bizarre qui nous dit qu'un jour, quand on sera mort, la colonne vertébrale de l'homme va se transformer en serpent. Ça veut dire quoi ce truc-là? Ça veut dire quoi cet enseignement? D'accord, c'est pas à prendre au pied de la lettre, ça veut dire quoi? Le serpent, c'est quoi? C'est la faute d'Adam Arishon. Quand on a consommé le fruit, c'est qu'on a refusé de faire une Ishtar Havaya. C'est que ma colonne vertébrale, j'ai pas voulu la briser. J'ai pas voulu me dire « Ah non, j'accepte la volonté de Dieu qui m'a interdit de consommer ce fruit-là. » J'ai pensé que je pouvais gérer tout seul la vie. D'accord ? Et que j'ai une stature, tu as vu, je suis capable de manger un fruit, je mange ce que je veux quand je veux. Eh bien, on nous dit, cette colonne vertébrale, si elle n'a pas appris à faire une Ishtar Havaya, elle se transformera en serpent symboliquement. Elle porte en elle les fautes de l'humanité, quoi. D'accord ? Quand un homme, il ne veut pas briser sa colonne vertébrale, c'est qu'en réalité, il porte en lui toutes les fautes que l'on peut imaginer, d'orgueil, etc. Et donc, en fait, toute cette histoire-là, sur laquelle on repose, la Akedat Yitzhak, on repose sur ça, on l'évoque tout le temps, c'est tout simplement une idée de Ishtar Havaya. Si je suis capable d'avoir une Ishtar Havaya, Akadosh Baruch Hu, il peut effectivement exaucer nos prières. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que le Midrash nous dit que lorsqu'Abraham était en train de prendre le couteau pour sacrifier son fils, il est écrit « Vaishlach Avraham et Yado », Avraham a pris le couteau, il a élevé sa main avec le couteau pour tuer son fils. Et le texte nous dit « Verenav moridot demaot » et ses yeux versaient des larmes. Ses larmes sont tombées dans les yeux d'Yitzhak qui lui était allongé. Et on lui dit, et malgré tout, il était prêt à aller jusqu'au bout. Alors on peut dire, alors non, moi je croyais qu'il n'avait pas pleuré. Je pensais qu'il avait été... C'est la grandeur d'Abraham, d'accord? On dit, il y a été de gaieté de cœur, j'étais prêt à me sacrifier, etc. Il n'y a aucun problème, tu me demandes de tuer mon fils, je tue mon fils. Oh, mais attends, mais si on dit qu'il pleure, alors peut-être ça enlève du mérite d'Abraham. Il a pleuré, quoi, il voulait pas le faire. Au contraire, quelle est la grandeur du Ishtar Havaya? C'est quand je prends conscience de la douleur que ça représente et malgré tout, je me prosterne. C'est que je sais que j'ai de la peine de tuer mon fils, c'est mon fils, j'adore, etc. Et malgré tout, je le fais parce que la Kadosh Baruch Hu me l'a demandé. C'est ça la Ishtar Havaya. Ça ne retire pas de la grandeur d'Abraham, au contraire en réalité. Ça montre à quel point le geste était fort parce que ses larmes témoignaient de son amour et que malgré son amour, il était prêt à sacrifier son fils malgré tout. Tout ça, c'est une Ishtar Havaya. L'histoire, c'est un détail, mais l'état d'esprit, c'est une Ishtar Havaya. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Quand on a des épreuves, qu'on a des trucs, qu'on a des mitzvot à faire, etc. En réalité, c'est une Ishtar Havaya. Il ne veut pas tout, Akadosh Baruch Hu. Il veut juste une idée de soumission vis-à-vis de ce qu'il nous demande, de ce qu'il représente. Et si on est capable, effectivement, d'avoir cette cassure-là au niveau de notre colonne vertébrale, c'est qu'on est exactement dans le sroute d'Abraham et dans le prolongement d'Abraham. D'accord.